Chapitre 14, Lorraine, Mount Pleasant, New Hampshire, dimanche 11 juillet 2010. Galwood se servit de café et s'assit sur un fauteuil. Je l'imitai et m'installai sur le rebord du lit. « Vous savez, l'écrivain, dans mon bureau du quartier général de la police, il y a une armoire que je n'ouvre presque jamais. C'était surtout Vance qui l'utilisait. Il y rangeait tout son bordel. » Et Dieu sait s'il en accumulait du bordel. Vous me connaissez, je suis plutôt maniaque. Lui, c'était le contraire. Il accumulait toutes sortes de vieilleries, des trucs absolument inutiles dont il répugnait à se débarrasser. « On ne sait jamais, » disait-il. Et moi de répliquer, « Tant que je ne le vois pas, ça ne me dérange pas. » Cette armoire, ça fait pour ainsi dire 11 ans que je ne l'ai pas ouverte. 16 avril 1999. Galwood, dans son bureau, regardait dans le vague. Face à lui, la table de Vance, encombrée de son désordre habituel. Des documents, des notes, des stylos dont la plupart ne fonctionnaient plus. Son coéquipier lui manquait cruellement. 10 jours qu'il était mort. Chaque matin, au réveil, c'était comme un nouveau deuil. Galwood n'arrivait pas à se faire une raison. Il passait ses journées à fixer le bureau de Vance. Il l'y voyait, s'emparant d'un stylo, puis constatant qu'il n'avait plus d'encre, le reposant pour en essayer un autre. Et encore un autre. Galwood appelait ça le cimetière des stylos. Il savait qu'il devait ranger, vider les affaires de Vance. Lansdane le lui avait demandé, mais il n'en avait pas le courage. Des coups contre la porte interrompirent sa rêverie. Kaczynski entra dans la pièce, une épaisse enveloppe à la main. « On a reçu ça pour Vance, » dit-il. Galwood ouvrit l'enveloppe. C'était le rapport de l'inspecteur des pompiers concernant l'incendie dans l'appartement de Walter Carey. Il rendait les conclusions de son enquête. Incendie volontaire avec 3 départs de feu différents. Utilisation d'un accélérant, sans doute de l'essence. Des photos accompagnaient l'envoi. On y voyait les pièces ravagées par les flammes et notamment la chambre à coucher, sur les murs de laquelle avait été peint en lettres capitales « pute infidèle ». « Ce type était vraiment un cinglé », s'indigna Kaczynski. « Tu veux que j'ajoute ça au dossier Alaska Sanders ?»«
Inutile », répondit Galwood. « Le dossier est clos. »«
Alors est-ce que je le transmets à la police de Mount Pleasant qui a géré l'incendie ? Si tu me fais un petit mot d'accompagnement, je l'envoie. » Galwood, qui n'avait aucune envie de réfléchir ni de faire de la paperasse, demanda alors à son collègue.
« Tu sais quoi, Kaczynski ? Rends-moi service. Vide tout le bureau de Vance. Mets tout dans un carton. Cette enveloppe est tout ce merdier et fourre le carton dans son armoire. Je ne veux plus avoir ça sous les yeux. »
Vance n'avait pas de famille directe, m'expliqua Galwood. Mais j'imaginais que quelqu'un viendrait récupérer ses affaires. Un frère, un cousin, un neveu. Personne n'est jamais venu et l'armoire est restée telle qu'elle. De rares fois, je me suis mis en tête de la vider. Avant de renoncer aussitôt par crainte de retrouver des souvenirs. Je n'aime pas les souvenirs, l'écrivain, car ils inspirent la nostalgie. Et vous savez le peu de considération que j'ai pour la nostalgie. Vous n'êtes pas le seul à avoir un problème de fantôme.
Pourquoi me racontez-vous tout cela, sergent ?
Parce que notre conversation d'hier m'a turlupiné. J'ai passé la journée à me demander ce qui avait pu se passer à Salem. Et plus j'y pensais, plus je me rendais compte que Vance et moi avions concentré notre enquête autour de Mount Pleasant et négligé Salem. Ça m'a tellement tracassé que je suis passé au quartier général et j'ai ouvert l'armoire de Vance. J'ai rapidement mis la main sur le carton dans lequel Kaczynski avait entassé ses affaires. Je retrouvais ses stylos, une facture de restaurant, un ticket de pressing, le rapport de l'inspecteur des pompiers, mais surtout ça.
Il sortit de sa poche 2 feuilles, des photocopies, l'une d'une note manuscrite de Vance, l'autre d'un article. Sur la note, au milieu d'observations diverses, Vance avait écrit en lettres capitales « Pourquoi Alaska est-elle venue à Mount Pleasant ?» L'article, lui, daté de septembre 1998. Il était paru dans le Salem News, le journal emblématique de la région de Salem. Le titre était éloquent, Alaska Sanders élue Miss Nouvelle-Angleterre. Je demandai à Gaalowood, « Vous saviez qu'Alaska avait participé à des concours de beauté ?»«
Bien sûr que nous le savions. C'est d'ailleurs Donna Sanders, la mère d'Alaska, qui nous a remis cet article. Mais regardez la date, septembre 1998. Alaska remporte un important concours de beauté et juste après, elle se tire à Mount Pleasant. C'est étrange, non ? Je me rends compte qu'à l'époque, nous nous sommes posé la question à l'envers. Il ne s'agissait pas de savoir pourquoi Alaska était venue à Mount Pleasant, mais pourquoi elle avait quitté Salem.
C'était une très bonne question. « Il faut aller à Salem, » dis-je.
« C'est mon intention, » assura Gaalowood. « De votre côté, du nouveau avec la sœur Donovan ?»«
Oui, je crois que nous tenons l'élément concret qui va forcer Lansdane à rouvrir l'enquête. Lorraine Donovan possède une photo qui disculpe Walter Carré. » Le visage de Gaalowood s'illumina.
« C'est seulement maintenant que vous m'en parlez ? Dites-moi que vous en avez une copie, l'écrivain. »
Je brandis mon téléphone portable. J'ai profité qu'elle tourne le dos pour prendre une photo. La qualité n'est pas merveilleuse. Je montrai mon écran à Gaalowood. Il reconnut aussitôt Walter Carré en limite du cadre. « Ce cliché a été pris au National Anthem au moment où Alaska était assassinée », expliquai-je. « On voit l'heure sur la télévision en arrière-plan. 1h43, heure de la côte Est. »«
Nom d'un chien !» s'exclama Perry. « On la tient, notre preuve. Envoyez-la-moi, je vais la montrer à Lansdane demain à la première heure. Vous savez que ça m'écorche les lèvres de vous faire des compliments, mais vous êtes bigrement bon. »
« Promettez-moi de manœuvrer avec finesse, sergent. Je veux préserver ma relation avec Lorraine. Elle ne doit pas savoir comment ni pourquoi l'enquête a été rouverte. Elle perdrait toute confiance en moi. »
« Vous l'aimez vraiment bien ?»«
Peut-être. » Au même instant, on frappa à la porte. Les coups furent suivis d'une voix féminine. « Marcus, c'est Lorraine !» Je me figeai. Le sergent aussi.
« Qu'est-ce qu'elle fiche là ?»
chuchota Gaalowood.
« Mais je n'en sais rien »
murmurai-je.
« Je ne suis pas certain qu'elle serait ravie de me voir ici. Elle ne doit pas garder un bon souvenir de notre rencontre il y a 11 ans. « Alors allez-vous cacher ?»
lui ordonnai-je. Il se précipita vers la salle de bain.
« Pas dans la salle de bain !» lui intimai-je à voix basse. « Mais pourquoi pas ? Et si elle a un besoin pressant ?»
Il eut un air stupéfait.
« Vous êtes complètement cinglé, l'écrivain. Cette fille en pince pour vous, elle vous livre ses petits secrets. Croyez-moi, elle ne vient pas dans votre chambre d'hôtel pour vos toilettes. »
Des coups encore. Et la voix de Lorraine à travers la porte.
« Marcus, tu es là ? J'arrive !»
Lorsque j'ouvris, je trouvai Lorraine qui tenait en main son exemplaire de La Vérité sur l'affaire Harry Kéber. Elle passa outre les salutations.
« Tu connais Perry Gaalowood ?»
me demanda-t-elle. Je pressentis à son ton que « oui » n'était pas une bonne réponse. Je privilégiai donc la seconde option. « Non ?»«
Comment ça, non ? Tu as passé un été entier à enquêter avec lui. J'ai lu ton bouquin. Je l'ai commencé hier quand tu es parti et je l'ai terminé cette nuit. »
Je tentai une plaisanterie. « Tu n'as pas aimé, tu veux que je te rembourse, c'est ça ?»«
Je suis sérieuse, Marcus. Quelles sont tes relations avec Gaalowood ?»«
Très mauvaise. Je l'ai brièvement rencontré dans le cadre de l'enquête, mais ce n'est pas comme si j'étais allé dîner chez lui avec sa femme et ses enfants. »«
Ce n'est pas ce que tu racontes dans ton livre ?»«
Ce n'est qu'un roman, Lorraine. Et c'est le travail d'un écrivain d'enjoliver la réalité pour le plaisir des lecteurs. »«
Tant mieux. Dis-moi, tu ne fais pas un livre à propos de mon frère, hein ?»
« Non, bien sûr que non. Quelle idée! J'ignorais tout de cette affaire jusqu'à ce week-end. » Elle parut soulagée.
« Qu'est-ce que tu fais maintenant ?»«
Rien, rien de spécial, » répondis-je.
« Tu veux faire un tour avec moi ? J'ai envie de voir l'océan. »
« Avec plaisir. » J'abandonnai Perry dans la salle de bain et m'en allai avec Lorraine. Nous embarquâmes à bord de ma voiture et prîmes la direction de la côte atlantique. Nous traversâmes la frontière avec le Maine et nous arrivâmes 1h30 plus tard à Kennebunkport. Nous nous promenâmes dans le centre historique avant d'y déjeuner. Puis Lorraine me conduisit sur une plage qu'elle affectionnait. La marée était basse et nous vagabondâmes, pieds nus, au milieu des rochers et des flaques dans lesquels grouillaient des crabes, de grosses crevettes et des étoiles de mer. À chaque découverte, Lorraine s'émerveillait. Je crus d'abord que c'était la biologiste en elle qui refaisait surface. C'était en réalité une partie de son enfance qui ressurgissait. « Tu viens souvent ici ?» lui demandai-je tandis qu'elle brandissait fièrement un énorme tourteau. Elle le reposa dans l'eau avant de répondre. « Je venais ici avec mes parents et mon frère, presque tous les week-ends. C'est ici que j'ai attrapé le virus de la biologie. Qui aurait imaginé que je finirais flic ?» Il y eut un silence. Elle regarda à l'horizon, puis elle me reprit. « Marcus, si tu veux bien, j'ai envie de laisser de côté cette affaire pour aujourd'hui. Je voudrais profiter d'un moment seul avec toi, sans fantôme. Ça me va bien. » C'était la fin de l'après-midi lorsque nous repartîmes de Kennebunkport pour rentrer à Mount Pleasant. Le soleil de juillet brillait de mille feux, irradiant les paysages sublimes de la campagne du New Hampshire. Alors que nous atteignions la petite ville, Lorraine me proposa simplement « Allons dire bonjour à mes parents ?» J'acquiesçai comme si c'était une évidence. Janet et Mark Donovan, les parents de Lorraine, habitaient une coquette maison à leur image, simple, modeste, solide. Lorsque nous arrivâmes, Mark bricolait dans son garage et Janet était occupée au jardin. En levant le nez de sa plate-bande, elle posa sur moi un regard d'abord circonspect. Puis me reconnaissant, elle me sourit. « Vous êtes plus beau en vrai qu'à la télévision, monsieur Goldman. » Les Donovan étaient des gens charmants. Nous prîmes le thé sur leur terrasse, ce fut un moment délicieux. Puis comme Lorraine et son père s'absentèrent un instant, Mark voulait interroger sa fille sur des documents administratifs qui le dépassaient. Janet se laissa aller à quelques confidences. « Merci d'être venu, monsieur Goldman. Lorraine ne nous ramène pas souvent du monde. » « Appelez-moi Marcus, je vous en prie, madame Donovan. »« Appelez-moi Janet. » J'esquissai un sourire. Elle reprit. « Lorraine et vous êtes ensemble ?»« Non, mais j'aime beaucoup votre fille. Elle est fantastique. Et quel caractère !»« Elle est effectivement fantastique, mais je voudrais qu'elle pense plus à elle et moins à son frère. Parfois, c'est comme si elle se sentait coupable de quelque chose. Elle vous a parlé d'Eric, j'imagine. »
« Oui. »
Lorraine est sa petite sœur, mais elle a toujours éprouvé le besoin de le protéger. C'est vrai que lui était bonne patte, se laissait plutôt faire, alors qu'elle est tout le contraire. Un jour, au lycée, Eric a été pris à partie par un groupe de costauds. Lorraine s'en est mêlée et a cassé le nez de l'un d'eux. Elle se retrouvait exclue de l'établissement pour 2 semaines. Je peux être franche avec vous, Marcus? Je pense qu'Eric ne sortira jamais de prison. Lorraine devrait vivre sa vie. Je voudrais pour son bien qu'elle s'établisse loin du New Hampshire, qu'elle puisse reprendre sa vie là où elle l'a laissée il y a 11 ans. Je me sentis suffisamment à l'aise pour lui demander « Est-ce que vous pensez qu'Eric est coupable ?»« Avez-vous des enfants, Marcus ?»«
Non. » »«
Pour un parent, un enfant reste un enfant. On ne se pose jamais ce genre de questions. Notre cerveau n'est pas capable de l'envisager. On appelle ça l'amour indéfectible. » C'est un amour que seule la filiation peut engendrer et qui surpasse tout. Après notre visite, je raccompagnai Lorraine chez elle. Elle me proposa de rester dîner, ce que j'acceptai volontiers. Nous cuisinâmes ensemble en sirotant un cabernet californien. Nous parlions de tout et de rien. La conversation était légère. Lorraine avait tombé le masque. Elle affichait un sourire lumineux. Son rire était irrésistible. À la deuxième bouteille de vin, la soirée devint plus romantique. Nous mangeâmes du bout des lèvres, trop occupés à nous effleurer les mains. Finalement, c'est elle qui fit le premier pas. Elle se leva, soi-disant, pour ramasser les assiettes, mais elle ne toucha pas au plat. Elle colla ses lèvres contre les miennes, et je lui rendis son baiser. Elle murmura alors, « Tu peux dormir ici si tu veux. » C'est gentil de ne pas me mettre dehors maintenant. » Elle rit. Je prends mon service tôt demain matin. J'aurais préféré un réveil plus romantique, mais je suis contente si tu restes. Alors je reste. Et de toute façon, je ne raterai pas une occasion de te voir en uniforme. Elle sourit. Le lendemain matin, lundi, Lorraine se réveilla à l'aube.
Je l'entendis prendre sa douche et me lever à mon tour. Lorsque je la rejoignis à la cuisine, elle était dans son uniforme en train de boire un café. Elle m'en servit une tasse et m'embrassa. « Je vais récupérer le journal dehors », me dit-elle avant de quitter brièvement la pièce. J'avalai une gorgée de café. Je me sentais bien. Lorraine réapparut dans l'encadrement de la porte. En posant les yeux sur elle, je la découvris livide. Ses yeux me fusillèrent.
« Pauvre type !» hurla-t-elle. « Dégage de chez moi !»
J'étais complètement décontenancé. « Lorraine, enfin, qu'est-ce qui t'arrive ?»«
Dégage, Marcus ! Je ne veux plus jamais te revoir !»
D'un geste déterminé, elle m'entraîna vers la porte de la cuisine, l'ouvrit et m'expulsa en me lançant au visage le journal qu'elle venait de ramasser. Comprenant que l'explication était là, je dépliai l'exemplaire du Mount Pleasant Star pour en découvrir stupéfait la une. Marcus Goldman rouvre l'enquête sur Alaska Sanders. Le célèbre écrivain, connu pour avoir innocenté Harry Kéber, serait à Mount Pleasant pour enquêter sur le meurtre d'Alaska Sanders. C'est du moins ce qui ressort d'une récente visite dans les archives du Mount Pleasant Star. Galwood fut la première personne que je prévins de la fuite dans le journal. Il s'agaça.
« L'écrivain, vous n'êtes pourtant pas un débutant. Comment avez-vous pu commettre une erreur pareille ?»
Il était tôt, l'information n'avait pas encore eu le temps de circuler. Il fallait avertir Lansdane de toute urgence.